franceinter.fr.
Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
À une très grande femme, la patrie reconnaissante, c'est donc ce matin aux Invalides à Paris que la France rend hommage à Simone Veil, cérémonie en présence d'Emmanuel Macron. C'est lui qui prononcera l'éloge funèbre. Nicolas Sarkozy, François Hollande seront là eux aussi, de même que plusieurs dirigeants étrangers. C'est une amie que vous avez perdue la semaine dernière.
Je la connaissais depuis très longtemps et c'était une amie. Nous étions exactement de la même génération. Mais la différence majeure entre nous, je dirais liée à sa tragique histoire, c'est qu'elle a vécu les épreuves de la déportation. Ce n'est pas la même chose de perdre les siens et de les voir mourir dans un camp. Et ce que j'ai compris en écoutant Simone, qui n'étalait pas ses souffrances ni ses douleurs, c'est que sa blessure la plus cruelle a été de voir sa mère s'éteindre, peu de temps d'ailleurs après, avant la libération des camps, à Bergen-Belsen. À quelques semaines près, elle aurait été sauvée. Et ceci lui a été une blessure qui n'a jamais pu être cicatrisée. Je crois que on ne comprend pas le parcours de Simone Veil, on ne mesure pas ce qu'il a d'exceptionnel si on ne pose pas, parce qu'à l'orée de cette vie, elle est adolescente à ce moment-là, ce que signifie de voir mourir sa mère à quelques jours, quelques semaines de la fin de la guerre. Et cette blessure-là, elle en a eu beaucoup d'autres dans une vie qui n'a pas été seulement comme sa vie politique ou sa vie de magistrat, brillante, exceptionnelle. Non, je parle là de la souffrance la plus terrible qu'on puisse avoir, c'est-à-dire voir sa mère mourir dans ses bras, dans un camp, alors que l'épreuve va se terminer.
Et Simone Veil a fait de ces blessures terribles, intimes, de la perte d'une partie de sa famille dans les camps de concentration, une force politique au point de devenir le visage de l'Europe réconciliée, la première présidente élue du Parlement européen, sans haine, sans jamais revenir de manière larmoyante non plus sur ce qu'elle avait vécu dans les camps, Robert Badinter.
Non, elle était même
gênée d'en parler.
Oui, extrêmement discrète à cet égard. D'ailleurs, parler d'elle n'était pas ce qu'elle souhaitait. Oui, vous avez raison de le dire, c'est le moment. Parce que elle avait compris, alors encore adolescente, qu'il n'y avait pas de place pour la paix s'il n'y avait pas d'abord l'apaisement intérieur, dominé ce sentiment presque naturel dans ce cas-là de haine à l'égard des assassins de ses parents. Mais on ne construit rien sur la haine. C'était ça, la véritable leçon qu'enseignait Simone Veil et la vie telle qu'elle l'avait construite avec son mari Antoine. Le refus de la haine. Et la haine, ici, elle avait une patrie. C'était l'Allemagne nazie. Elle a souhaité, elle a œuvré pour que intervienne la réconciliation franco-allemande. Et ceci, je l'ai depuis très longtemps. C'est une force de caractère et un témoignage moral immense. Je crois que c'est cette volonté de surmonter le juste ressentiment qu'on peut éprouver quand ses parents ou ses enfants, pas dans son cas, mais d'autres, ont été assassinés. Et là, vous voyez la vraie grandeur, l'unique au sens de « elle est très rare, voire sans exemple comparable » de Simone Veil. C'est le fait de se dire « la haine ne mène à rien ».
La haine n'a pas sa place et la vie doit continuer. Simone Veil avait été interrogée il y a quelques années, je crois que c'était dans l'émission de Pascal Clark sur Canal+, sur le terme de résilience qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Elle disait, moi la résilience, je sais pas ce que c'est. Je me méfie des psys, mais oui, il a fallu réapprendre à marcher, à manger, à vivre, à dormir dans un lit au retour d'Auschwitz.
Oui, mais il a surtout fallu se résigner à vivre sans sa mère et sans bien d'autres membres de sa famille. Vous savez, le temps passe. Vous avez perdu vos parents pendant la guerre, dans les déportations. La vie a fait son œuvre, cicatrisée, croyez-vous. J'y pensais toujours, mais cicatrisée. Et puis, à certains moments, exactement comme pour un membre amputé, vous êtes saisi d'une douleur que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui vient du plus profond de votre être. Et ça, c'est d'un seul coup la resurgence, la réapparition de l'être aimé. C'est très difficile à supporter, mais c'est une condition qui est inhérente aux conséquences de la déportation des siens.
De tous les combats qu'elle a portés, Robert Badinter, que ce soit pour la paix, pour l'Europe ou pour le droit à l'avortement en 1974 à l'Assemblée, quel est celui qui vous a le plus touché ?
Celui pour l'Europe. Ça a été sa grande cause. Bien entendu, je n'oublie pas tout ce qu'on lui doit en matière de progrès de la condition féminine, ce que signifie la loi qui apporte son nom. Mais ça n'est rien au regard de cette démarche constante, voulue, consciente aussi, réconciliation avec l'Allemagne, parce que sans eux, pas de possibilité, et pas de possibilité de faire naître l'Europe. Elle était profondément européenne. Et cette cause-là, dans la deuxième partie de sa vie, transcende tout le reste. Simone Veil, c'est une européenne, au grand sens où on l'entendait jadis, comme certains écrivains. Alors, une européenne, ça veut dire les enfants des assassins ne doivent pas porter le crime de leurs parents. C'est fini. Il faut savoir vivre avec eux car ils sont comme nous. Cette démarche n'est pas si facile que de l'énoncer ici à votre micro. Ce travail-là, ce travail sur soi, c'est la vraie grandeur de Simone Veil. Et je vous dirais franchement, parmi tant de justes distinctions qu'elle a reçues, moi j'aurais souhaité par-dessus tout qu'elle reçoive le prix Nobel de la paix, parce qu'elle l'a mérité, parmi d'autres, mais bien plus que la plupart.
À défaut de Nobel, est-ce que vous souhaitez que sa dépouille repose au Panthéon, comme le réclament désormais plus de 300 000 Français dans des pétitions, Robert Badinter ?
Oui, je pense que beaucoup plus encore que 300 000 le réclament. Il y a un problème toujours avec la question du Panthéon, c'est la famille. C'est la volonté de celui dont on dispose du corps. Que voulait-il ? A-t-il laissé à cet égard des instructions ? Je pense à des hommes comme Cassin. Ou bien est-ce que, comme pour la famille de Clémenceau, il savait que Clémenceau ne voulait pas être enterré au Panthéon ? D'abord, savoir ce qu'elle voulait, ce qu'Antoine, avec lequel elle a vécu et se sont tant aimés jusqu'au dernier jour, ce qu'il voulait aussi. Donc, c'est pas le réflexe, je dirais, de tout Français de dire Simone Veil au Panthéon. Après, je sais par expérience, pour avoir essayé, en ce qui concerne Clémenceau avec Jeannet, c'est pas si facile.
Encore un mot, Robert Badinter, puisque vous devez nous quitter dans quelques instants sur ce discours de l'Assemblée nationale en novembre 1974, lorsqu'elle porte le droit à l'avortement devant l'Assemblée, qu'elle doit d'abord convaincre son propre camp, c'est-à-dire la droite, puisque les élus socialistes et communistes étaient acquis d'avance à cette loi, et qu'elle doit subir pendant des heures et des heures des insultes, et notamment des insultes antisémites qui la ramènent au camp.
C'est une blessure, mais à côté de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a vécu et de ce que les siens ont vécu, je dirais, c'est misérable. Ça ne dépasse pas ce niveau-là, ça se méprise. Alors, en ce qui concerne la loi elle-même, c'est une grande loi. En ce qui concerne le débat parlementaire, je dois quand même rappeler que s'il n'y avait pas eu la gauche pour voter la loi n'aurait pas été votée.
Mais s'il n'y avait pas eu la droite et le Premier ministre d'alors, pour revenir à la charge, puisque quelques mois plus tôt, l'avortement, une même proposition de loi avait été rejetée cette fois. Et là, il a fallu les voix de la droite et de la gauche ensemble, d'une partie de la droite et de la gauche ensemble pour faire passer cette loi.
Toute la gauche et une partie de la droite.
Un dernier mot, ce sera vraiment le dernier, cette fois-ci Robert Badinter. En un mot, le message, l'héritage qu'elle nous laisse aujourd'hui, Simone Veil, on va y revenir assez longuement après la revue de presse, mais s'il fallait le résumer en quelques mots, quel serait-il ?
Ce que j'évoquais, la force du pardon, la force de regarder l'avenir, le refus d'être prisonnier du passé, construire la paix, alors que chez vous la guerre fait tant de ravages.
Merci infiniment Robert Badinter d'avoir accepté ce matin de témoigner au micro de France Inter. On va poursuivre cet hommage à Simone Veil après la revue de presse avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. On vous remercie Robert Badinter puisque vous devez nous quitter. On sera également en ligne avec Leïla Slimani, la prix Goncourt 2016 qui rend hommage également, superbe hommage à Simone Veil, à son héritage. On attend vos questions, également vos témoignages sur le combat pour le droit des femmes au standard de France Inter. Il est ouvert 01 45 24 7000. Il est 8h33 sur France Inter.